Bonsoir, bienvenue dans cette tribune de la presse qui vous propose ce soir trois thèmes. D'abord, le 26 janvier 2010, le chef de l'État Joseph Kabila a totalisé 9 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Ensuite, crise à la commission électorale indépendante, 4 des 7 membres qui composent le bureau de cette institution se désolidarisent de leur président, l'abbé Apollinaire Malumalu. Enfin, selon la Fédération des entreprises du Congo, l'année 2010 est placée sous les signes de l'amélioration du climat des affaires. Trois confrères sont avec moi dans le débat pour en parler. Il s'agit de Médard Mbuyal Mangal, il est journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle. Matadi Le Fils, secrétaire de rédaction au quotidien La Tempête des Tropiques, c'est un journal qui paraît à Kinshasa. Et Mathieu Mpoukoudi, il est éditeur du journal Embouchure, c'est un hebdomadaire qui paraît à Matadi au Bas-Congo. Neuf ans du président Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo, crise à la commission électorale indépendante ainsi que l'amélioration du climat des affaires au Congo, tels sont les thèmes retenus pour les débats de ce soir. Comment les différents journaux kinois ont traité ces sujets? Écoutons cette revue de presse que nous propose Maombi Mukomia. Commençons cette revue de presse par le bilan de 9 ans de Joseph Kabila au pouvoir. Le bilan de ces 9 ans est controversé, indique le potentiel. En effet, si pour le membre de la famille politique du chef de l'État, le bilan de Joseph Kabila est positif, pour ceux de l'opposition, beaucoup reste à faire, poursuit le potentiel. Toujours sur le même sujet, l'opposition rapporte la référence plus, dénonce la non-exécution du budget de l'État, les ratés dont la réforme de l'État, l'absence de matérialisation des programmes. Par contre, indique le journal, les cadres de la majorité salue la réunification, la pacification du pays ainsi que l'organisation des élections. Amélioration du climat des affaires en RDC, la tempête des tropiques annonce que 3 projets de loi ont été votés jeudi au Sénat. Le potentiel précise que les projets de loi en question visent la réduction du délai pour l'obtention des documents de commerce qui passe de 15 jours à 5, ainsi qu'à éviter la lenteur dans l'obtention des documents permettant d'assurer la sécurité juridique et judiciaire des affaires. Si pour le monde économique, pour parler de la commission électorale indépendante, l'avenir indique que les membres du bureau de la commission électorale indépendante ont suspendu leur participation aux réunions de leur bureau ainsi que celle de la plénière de la CEI. Ces agents ont ainsi agi, explique l'avenir, pour dénoncer l'absence prolongée des débats internes délibérément entretenus par le président de la CEI, le dysfonctionnement et la paralysie des organes de la CEI et la confiscation de la gestion des affaires administratives et financières entre les seules mains de l'abbé Malumalu. Ainsi s'achève ce journal des journaux.
Merci Maombi Mukomia pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Médard Mbuyal Mangal, vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle. Comment jugez-vous la manière dont la presse chinoise a analysé l'actualité de cette semaine?
Bien, la presse fait des analyses en fonction des données disponibles parce que, voyez-vous, généralement, on travaille dans les conditions difficiles, on n'a pas suffisamment de temps pour se documenter, pour revenir sur des sujets, c'est comme 9 ans de pouvoir du président de la République. C'est beaucoup de choses qui sont intervenues entre temps. Et il faut situer le contexte dans lequel Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. En ce moment-là, l'AFDL qui prenait le pouvoir n'avait pas prévu un mécanisme de réchange, un mécanisme de succession. Disons, cette constitution-là de l'AFDL n'avait rien prévu. Donc, il y a ce contexte. Mais il y a surtout le contexte de la guerre. Au moment où Joseph Kabila devient président de la République, le pays est divisé, il y a plusieurs rébellions qui ont pris les rênes de province, l'Est, l'Ouest. Donc il y avait plusieurs pouvoirs entre temps et il y avait déjà l'accord de Lusaka qui avait en quelque sorte légitimé ces institutions-là.
Donc, je précise qu'il s'agit juste d'un petit commentaire. Matadi Le Fils, vous êtes secrétaire de rédaction au quotidien La Tempête des Tropiques. Votre appréciation par rapport au travail de la presse chinoise cette semaine?
Oui, merci. Nous travaillons dans des conditions énormément difficiles. D'abord, je profite de l'occasion pour rendre hommage à tous les journalistes qui œuvrent en République démocratique du Congo. Donc, tout ce que la presse a dit par rapport au sujet que vous venez d'évoquer, elle n'a fait que relayer ce que les institutions officielles ont rendu. L'Assemblée nationale, la mouvance présidentielle, j'allais dire l'ANP, par rapport, par exemple, au bilan, des 9 ans de Joseph Kabila, l'Assemblée nationale par rapport à l'amélioration
des climats des affaires.
En fait, c'est ça, mais c'est pas que nous puisons n'importe où, ce sont des informations fouillées, vérifiables et puis vérifiées.
Okay. Mathieu Pokodi, vous êtes éditeur du journal Ambossir, c'est un hebdomadaire qui paraît à Matadi, au Bas-Congo. Et à Matadi, quelle est l'actualité qui a dominé cette semaine?
Merci de la parole pour la province du Bas-Congo. L'actualité qui a dominé dans cette province, c'est d'abord la table ronde qui s'est tenue à Mwanda dans le cadre de la réconciliation entre les ayants droit foncier et les entreprises d'exploitation pétrolière et exploitant le pétrole sur le large de l'océan Mwanda. Donc voilà un peu le point culminant qui a fait l'actualité dans la province du Bas-Congo.
Merci, nous passons à notre premier thème de ce soir. Le 26 janvier 2010, le chef de l'État, Joseph Kabila, a totalisé 9 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Le 26 janvier 2001, Joseph Kabila prêtait serment devant les membres de la Cour suprême de justice, devenant ainsi le 4e président de la République démocratique du Congo. 10 jours plus tôt, le 16 janvier 2001, son prédécesseur, Laurent Désiré Kabila, venait de perdre la vie, assassiné dans son bureau au Palais des Marbres. 9 ans après son avènement au pouvoir, la majorité qui s'est forgée juge le bilan du président Kabila positif, tandis que l'opposition estime que beaucoup restait à faire. Reportage Axel Goncho.
Le bilan des 9 ans des pouvoirs de Joseph Kabila est largement positif, affirmation du député de la majorité Gaston Moussemena. Selon lui, à l'actif du président Joseph Kabila, on peut noter la pacification et la réunification de la RDC, déchirée par 3 mouvements rebelles au nord et à l'est depuis 1998. Autre fait marquant des législatures de Joseph Kabila, toujours d'après Gaston Moussemena, l'organisation de la première élection présidentielle au suffrage universel en 2006. D'après lui, beaucoup d'efforts sont fournis pour effacer la dette de la RDC et améliorer les conditions de vie des populations. À l'opposition, on reconnaît aussi des points positifs à la gouvernance de Joseph Kabila. Le député Jean-Martin Moukonkolé évoque notamment l'unité nationale. Toutefois, il juge le bilan de Joseph Kabila globalement négatif. Il en veut pour preuve le retard et l'absence observés dans la matérialisation de plusieurs programmes du gouvernement. L'armée n'est pas réformée, affirme-t-il. Les budgets de l'État ne sont pas exécuté, la production agricole ne redécolle pas, pendant que la production minière tente à disparaître.
Mesdames Bouyal Mangal, en tant que journaliste analyste, quelle lecture faites-vous des 9 ans du président Joseph Kabila sur le plan sécuritaire et politique?
Oui, sur le plan politique, c'est vrai que le gros effort, ça permet le débat politique, il est libre, il est démocratique. Des institutions démocratiques issues des élections de 2006 sont fonctionnelles et opérationnelles. C'est déjà le côté positif de ça. Sur le plan de sécurité, c'est vraiment la quadrature du cercle, comme on dit. On est face à l'équation difficile. La réforme au niveau de l'armée, avoir une armée républicaine capable d'assurer la sécurité des institutions, c'est un défi pour l'État. Ça a commencé depuis la formule 1+4, mais on poursuit, c'est vrai, on n'y est pas encore arrivé, mais il va falloir justement le défi de l'existence de la République démocratique du Congo est lié à la capacité de ces pays de se doter d'une armée capable d'assurer la sécurité des institutions, la sécurité des citoyens, finalement la sécurité des affaires. Parce que si la sécurité des affaires n'est pas garantie par une armée républicaine, les choses ne vont pas marcher. Donc c'est vraiment des défis à relever, c'est des efforts à faire de ce côté-là.
Matadi le 6, quel bilan le quotidien de la tempête? Je suppose que le quotidien de la tempête est revenu sur le 9e anniversaire du président Joseph Kabila. Et quel est le bilan que ce journal dresse sur le plan socio-économique ou sur le plan politique?
Oui, je suis parfaitement en accord avec ce que vient de dire mon aîné, mon prédécesseur. Mais seulement, je vais faire une lecture à 3 temps par rapport à ce bilan. Moi, je vois 3 personnages différents en Kabila. Je vois le Kabila de 2001, parce qu'il ne faut pas d'abord...
Alors qu'il a fait le pouvoir.
Oui, il ne faut pas oublier qu'il est parmi les rares, c'est pas le seul président à avoir prêté serment 3 fois au trône. C'est en 2001, c'était un Kabila pacificateur. Il a ouvert la voie au dialogue, avec tous ses ennemis de cette époque. Tout ça à la recherche de la paix. Il a eu des réunions à travers toutes les grandes villes d'Afrique. Puis ça aboutit en Afrique du Sud, à Sun City, avec la signature de l'accord global et inclusif. Et là, je vois directement le Kabila de 2003.
Lorsqu'il instaure la transition.
Oui, avec le 1+4. C'était un Kabila unificateur. Il a accepté de travailler avec tous les ennemis d'hier, d'où l'architecture 1+4. Il s'est impliqué pour unifier le pays en mettant un terme aux différentes rébellions. On a vu Kabila, par exemple, et ses dernières accolades avec Jean-Pierre Bemba, avec Zé Dingoma, ce qui était impossible hier. On a pu circuler à travers tout le pays, même dans les recoins qui étaient dirigés par les rebelles. Et puis je vois maintenant le Kabila de 2006, issu des élections, cette fois-là. En tout cas, sans mâcher les mots, je peux dire que de 2006 à 2009, c'est un véritable crash, une véritable catastrophe.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a eu une destruction monstrueuse du tissu économique.
Pourtant, c'est à ce moment-là, en 2006, c'est qu'il organise les élections.
C'est ce qui est paradoxal. Il a été élu, mais avec un volte-face. C'est un Kabila méconnaissable.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, un Kabila méconnaissable ?
Mais on a traversé des difficultés jamais vécues auparavant. Vous imaginez, il y a beaucoup de familles qui ont commencé à regretter l'époque des Mobutu, que nous déplorions à cette époque. Hein ? On a enregistré des grèves par-ci par-là, dans des régies financières, à l'EPSP, dans le secteur de santé, un peu partout. On ne sait pas si demain...
Cela n'est pas dû à l'apprentissage de la démocratie.
Démocratie, je ne sais pas, mais je ne pense pas que ça soit vraiment une raison. Moi, je pense que c'est plutôt un manque de volonté politique. C'est ça la raison.
Mathieu Pokoubi, quel bilan faites-vous des 9 ans de Joseph Kabila à la tête de la RDC?
Merci beaucoup de la parole. Je dirais que le bilan est aussi de mi-raisin, pour autant que d'abord il faut maîtriser tous les paramètres pour devoir donner son point de vue. Mais je dirais pour un pays aux dimensions sous-continentales, il est difficile de manière à ce que tous les secteurs de la vie étant devenus prioritaires, afin qu'on puisse, en un temps record comme celui-ci, répondre à toutes nos préoccupations. Mais ce qui est vrai, tout le secteur de la vie est devenu défi à relever. Mais bon, je dirais que sur le plan politique, il a eu à ramener tous les protagonistes autour d'une même table et décider sur l'avenir du pays et organiser les élections comme il l'avait prévu. Partant du plan sécuritaire, vous avez compris que le pays était quasiment inondé. Mais bon, aujourd'hui, on peut circuler à travers toutes les provinces et que chaque Congolais est libre de circuler. Donc, il faut dire que là, c'est aussi un point assez positif. Mais bon, vous savez, dans cette démarche, il y a toujours des faiblesses dans toute œuvre humaine. Donc, dans ce niveau-là, nous ne devons pas dire qu'il a échoué ou qu'il a réussi, mais au moins, c'est un pas qu'il a avancé vers le développement. Donc, chacun de nous peut apprécier à sa manière, mais je trouve tout de même que le président de la République a cette volonté-là d'aller vers de l'avant, même s'il y a des pesanteurs, même s'il y a des situations qui s'accrochent, qui a la peau dure, qui refusent de partir, notamment la grève des enseignants, la paye des personnels de carrière de l'État, la grève des magistrats, un peu de tout, comme ça, qui font que réellement, ça ne touche pas décoller pour l'instant.
Oui, Médard Mouyal-Mangal, Mathieu Pokoubi dit qu'il est difficile de répondre à toutes les priorités. Quel est votre point de vue par rapport à ça?
Oui, c'est vrai, parce que finalement, en République démocratique du Congo, tout est priorité. Dès qu'il y a des questions inachevées, comme la sécurité sociale des gens qui travaillent, depuis 1970 à aujourd'hui, on n'est jamais parvenu à faire une politique qui puisse sécuriser tout le monde. Je prenais juste le cas des professeurs d'université, qui se sont toujours plaints qu'en 1960, ils avaient déjà un salaire qui correspondait au taux de 2 000 $. On a tenté de remonter avec pendant la transition avec la formule 1+4, avec le professeur Émile Ngoï, alors ministre de l'enseignement supérieur universitaire, a ramené le salaire a remonté le salaire du professeur jusqu'à plus ou moins l'équivalent de 500 $. Mais on est remonté dessus. Et prenez tous les cas. tous les secteurs de la vie, que ce soit le secteur des médias. Donc, la fonction publique n'a jamais justement été une machine de développement, une machine de pensée, parce que c'est de ce côté-là qu'il y a des sérieux problèmes, que ce soit dans la magistrature, que le président de la République ait amorcé l'action tolérance zéro. C'est vrai, ce qu'on a fait, ce sont les premiers pas, mais il faut faire davantage, parce qu'il faut valoriser le citoyen congolais pour qu'il soit producteur, pour qu'il soit bénéficiaire du système de développement. Or, jusque-là, on réalise qu'en 50 ans d'indépendance, l'homme congolais n'est pas au centre du développement. L'homme congolais a continué à subir, et il est resté longtemps dans les promesses. Alors, quand un président arrive, évidemment, il devra régler, il devra porter la charge de tout ce qui a été inachevé par ce prédécesseur en tant que chef de l'État, et au nom du principe de la continuité du pouvoir, il est appelé à assumer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, et l'administration, la restauration, rien que de l'administration de la République démocratique du Congo. Savez-vous, par exemple, que vous pouvez arriver dans un coin où vous trouvez à peine un policier qui porte les bottes, ou un policier qui n'a même pas les insignes que peut porter un policier. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Donc, il y a tout est défi, tout est prioritaire, mais évidemment, il revient aux dirigeants en tant que premier leader de s'assumer et de donner de l'élan à cela. Et c'est ce que attendons du président de la République.
Mathilde Fils, vous avez dit que la période 2006-2009 était caractérisée par une certaine cacophonie. Et à votre avis, quels sont les défis à relever pour les années à venir?
En tout cas, il y a une seule réponse à cette question, c'est le défi social. Il faut améliorer les conditions de vie des populations, c'est ça. C'est quand même pas normal. Parmi les 5 chantiers, par exemple, nous avons le chantier éducation. Mais voyez comment sont traités nos enseignants, comment sont traités les professeurs, comment sont traités les professeurs d'université. Ils ne sont pas considérés comme des hommes par rapport à leur enveloppe salariale. C'est regrettable tout ça. Moi, je pense que la priorité, c'est le social. Vous n'avez qu'à circuler à travers le pays, que ce soit dans la capitale ou bien à l'intérieur, vous lisez la misère. La misère, ça fait du fort, ça fait pleurer, quoi. Je vais vous donner un exemple pour dire qu'il y a, pour justifier le fait qu'il y a un manque de volonté politique, comme j'avais dit dans ma première intervention. Le chef de l'État a ordonné, enfin, il a proposé qu'on puisse réélire pour une deuxième fois le budget 2010. Ça a été renvoyé au Parlement, mais vous savez quoi? Il n'y avait rien par rapport à l'augmentation des enveloppes salariales des fonctionnaires, des enseignants, des médecins, il n'y avait rien. Sauf après des discussions au niveau de l'Assemblée nationale, on a quand même pu trouver un petit surplus de 21 milliards de francs congolais, rien que pour servir, pour ajouter à l'enveloppe des policiers et des militaires. Et en faisant les calculs, les 21 milliards de francs congolais représentent quoi? À peine 1 franc congolais par rapport au salaire du départ, donc ça représente pratiquement rien. Et dans ces conditions, vous voulez que nous vivions en sécurité. Ça, c'est pas possible.
Oui, il y a un éditeur, Robert Bahomé, qui a réagi hier à l'émission Dialogue entre Congolais, qui a dit que s'il dit qu'on ne se trompe pas, pendant le reste du mandat du président, les défis à relever sont d'abord sécuritaires. C'est d'ailleurs la condition sine qua non de la réussite des autres secteurs de la vie en République démocratique du Congo. S'y investir sérieusement sera donc une nécessité absolue. Et partagez-vous ce point de vue.
Il a parfaitement raison. Je viens de faire allusion à ça tout à l'heure. Nous voudrions être sécurisés partout à travers le pays. Mais il ne se passe pas une semaine sans qu'on enregistre des morts ou bien des cas de violence à l'est de la République démocratique du Congo. Tout ça, ce sont des gens aigris, des gens qui sont mal payés ou impayés totalement. Où voulez-vous qu'ils puissent s'approvisionner pour nourrir leur famille, nourrir leurs enfants? C'est sur les dos des paisibles populations, on n'en peut rien.
Et est-ce que les mauvaises conditions dans lesquelles vivent les policiers et militaires peuvent justifier leur comportement vis-à-vis des paisibles citoyens?
Non, mais on dit pas que ça puisse justifier, mais vous voyez, nous sommes des êtres humains. Hein. Quand on en a ras le bol, des fois, on pose des actes souvent démesurés. Enfin, je les encourage pas. Je sais que ce qu'ils font là, c'est pas bien, c'est punissable, surtout par rapport à notre constitution et par rapport à la loi. Mais on essaie de voir en amont et en aval pourquoi ils font ça. Alors la faute revient à l'État.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Crise à la commission électorale indépendante. 4 des 7 membres qui composent les bureaux de cette institution se désolidarisent de leur président, l'abbé Apollinaire Malumalu. Ils l'ont fait savoir mardi dernier au cours d'une déclaration publique. La première vice-présidente, le premier, le deuxième et le troisième rapporteur adjoint dénoncent une gestion floue de la commission électorale indépendante par son président, l'abbé Apollinaire Malumalu. Prise de précision avec Augustin Ingala.
Celle de Denis Mirimo, premier rapporteur, et Norbert Bassengezi, deuxième vice-président, aujourd'hui ministre de l'Agriculture, n'ont pas signé la déclaration des mécontents. Les 4 membres du bureau de la CI estiment que Apollinaire Malumalu a personnalisé l'administration et les finances de l'institution. Il a paralysé les organes de contrôle. Il est fréquemment absent. La CI s'endette chroniquement. Autant de reproches qu'avant ses collègues des bureaux. Les gouvernements et les présidents de la CI restent indifférents au non-paiement des agents qui totalisent, disent-ils, bientôt une année sans salaire. Mais il ne s'agit pas seulement des agents. Les 4 membres mécontents du bureau craignent que le processus électoral ne soit interrompu ou que la CENI, institution qui doit remplacer la CI, ne débute son travail sur fond de malaise.
Mesdames Mouyal Mangal, votre analyse par rapport à cette crise qui sévit au sein de la commission électorale indépendante.
Oui, mais il y a deux niveaux d'analyse de ce que nous appelons crise. Le premier niveau, qui soit le niveau de positionnement. Les membres du bureau de la CENI, du moins le bureau actuel, ils savent qu'ils sont déjà partants. Avec la création de la CENI,
la commission électorale nationale
indépendante, nous entrons dans un autre mécanisme de délégation du pouvoir. Et ils sont des bénéficiaires du pouvoir 1 plus 4, où la légitimité était conférée par les participants ou les ex-belligérants et signataires de l'accord de Saint-City. C'est ça la légitimité de ces gens-là. Alors, dès lors que la CENI est déjà créée, et donc ils n'ont plus de légitimité, alors il faut savoir créer un autre discours par rapport à l'avenir. C'est vrai. Mais parce que moi, j'aurais voulu, par exemple, qu'ils prennent position, pourquoi il n'y a pas eu élection locale qui était programmée pour 2010. En ce moment-là, on comprendrait qu'ils ont comme préoccupation le processus démocratique. Parachever le processus démocratique, ça nous intéressait. Mais ils posent le problème personnel. L'argent non payé, un certain nombre de faits, c'est vrai, mais ils ont toujours géré, ils ont toujours été avec l'abbé Malumalu. On se poserait des questions, pourquoi avoir attendu longtemps? Pourquoi en 2006, ils ne se sont pas manifestés? Parce qu'à ce moment-là, la CENI, c'était une vache à lait, l'argent venait de toutes parts. On comprend aujourd'hui que les partenaires, les principaux partenaires, les principaux pourvoyeurs des fonds pour la CENI, étant donné qu'il n'y a pas de perspective d'organisation des élections, on ne peut pas s'imaginer que la CENI puisse mobiliser de l'argent aujourd'hui, soit du côté du gouvernement, soit du côté d'autres partenaires, parce que la raison qui allait faire qu'on mobilise l'argent a été un peu éloigné. Le fait de transférer l'organisation des élections locales en 2011 démontre que la CENI ne saura pas mener une bonne opération de mobilisation financière en 2010.
Mais il y a déjà quelques mois, les bailleurs des fonds, les partenaires extérieurs de la CI, avaient déclaré que les 80% du budget tel que demandé par la CI était déjà disponibilisé. Donc l'argent pour les opérations électorales, l'argent est là. Ce qui pose problème, c'est l'argent pour la rémunération des agents. Et là, des sources crédibles ont dit que les agents de la CI sont payés par l'État congolais à travers une dotation. Et toujours cette source nous dit que ça fait maintenant 10 mois que cette dotation n'est plus jamais versée par l'État congolais à la CI.
Mais juste
alors, la responsabilité de l'abbé Malumalu peut être située à quel niveau?
Mais justement, on dit que c'est l'État congolais. L'abbé Malumalu ne représente pas l'État congolais, il est président d'une institution. Alors, s'il y a des reproches à faire, on les ferait au gouvernement. Ils auraient le courage de dénoncer, soit le ministre des Finances, le ministre du Budget ou le Premier ministre à la limite, de n'avoir pas libéré les fonds qui ont été budgétisés pour le compte de la CI. Mais je crois qu'ils ont manqué leur cible. C'est vrai, politiquement, ça vaut, mais en termes de communication, en termes de cible, ils ont tapé à côté. Parce que l'abbé Malumalu est dans les mêmes conditions qu'eux. C'est pas lui qui gère, c'est pas lui qui manipule les dépenses au niveau de l'État.
Maxime Pocondi, les 4 membres du bureau de la CI qui ont désavoué l'abbé Apollinaire Malumalu, en procédant de cette manière, vous pensez que, comme le dit Mouyal Mangal, l'approche n'est pas bonne?
Et en fait, je voudrais d'abord dire que la vérité ne se penche jamais d'un seul côté. C'est vrai, les quatre membres du bureau, ou bien pour des raisons de repositionnement, bousculent déjà pour qu'ils soient pris en compte dans la recomposition de la CENI. Mais moi, je voudrais également dire que la même anomalie qui a une tour de manche assez large, qui a assez des entrées faciles dans l'arsenal politique du pays, devrait également veiller au bon fonctionnement de son institution. C'est vrai, il est tout le temps parti, il est tout le temps ailleurs. Certainement, il trouve des débouchés. C'est là où je suis tout à fait d'accord pour dire qu'ils ont intérêt à dénoncer qu'ils sont pratiquement à l'abandon. Mais cela ne suffit pas. Et c'est vrai que c'est aussi une méthode de faire entendre leur voix. Il aurait fallu, comme l'a dit Mouyaï, qu'il puisse aussi dénoncer quant à l'organisation des élections locales. Moi, j'aurais souhaité que la Bémanouane Réunion s'occupe de son institution, au lieu d'être en même temps à la CIE, sur le programme Amani, parce que tout doit être assez bien que la raison pour laquelle il est à la tête de la CIE risque de ne pas être poursuivi. Donc, en tant que coordinateur, en tant que président, il doit superviser, il doit suivre, il doit payer au bon fonctionnement. Et ça aussi, c'est un manquement dans le chef de la Bémanouane. Alors, si je trouve que il est mieux d'ailleurs, au lieu de s'occuper de sa propre maison, il pouvait céder les fauteuils à quelqu'un d'autre. Donc voilà un peu, je trouve que c'est aussi une bonne façon de faire entendre leurs voix. Soyez une année après, simplement, vous comprenez ce que cela représente.
Oui, Matadi le fils, certains acteurs politiques pensent que les signataires de cette communication sont manipulés par leur parti politique, car selon ces acteurs politiques, tous les contestataires seraient membres de l'opposition. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Non, du tout, je ne partage pas ce point de vue. Écoutez, à l'époque, l'opposition avait tiré la sonnette d'alarme pour dénoncer la mégestion de la CI par M. Labbé Maloumane. Personne n'avait cru en elle. Hein? Je me souviens, l'UDPS, à travers son secrétaire général, avait tiré la sonnette d'alarme, ainsi que le MLC. Cette crise, à mon avis, c'est une crise voulue. C'est ma lecture. C'est une question de préparer l'opinion nationale au report des élections de 2011. Parce que la raison est déjà connue. Il n'y a pas d'argent. En tout cas, c'est ma lecture. Question de solliciter, hein, parce que 2011, c'est dans une année, hein, et imaginez-vous, nous n'avons que 24 mois ou un peu plus pour organiser les élections. Pareil, crise commence à
les élections locales et les élections générales.
Générales. Je parle plus des élections générales parce que locales qui devaient être, les élections qui devaient finaliser celles de 2006 n'ont plus eu lieu. On nous a trompé avec les élections des bourgmestres. Ça n'a pas eu lieu. Il y a eu des nominations à la place. C'est scandaleux et personne n'en parle. Écoutez, si en 2005, l'accord global avait prévu une prolongation de 6 mois renouvelable une fois. Je suis désolé, l'actuelle constitution ne prévoit pas ça. En 2011, je crois que ce sera au mois de juillet, plus personne n'aura le mandat de la population. Il n'y aura plus de légitimité et il faudra que ce soit là lire la constitution et voir si le président du Sénat pourra faire l'intérim en question de nous préparer aux élections, je ne sais pas, mais en tout cas, en 2011, les peuples s'attendent aux élections. Nous, c'est ce que nous attendons, les élections, c'est ça.
Oui, mesdames, Louis Mangal, la communication de ces quatre membres du bureau de la CI intervient au moment où l'opinion s'interroge, comme vient de le faire Matadi le fils, s'interroge sur le processus électoral en cours. Hein. On ne parle plus de la révision du fichier électoral, alors qu'on attendait les élections locales en 2010, on apprend que ces élections seront organisées en 2011. Quel lien peut-on établir entre cette déclaration et toutes les questions que l'opinion se pose sur le processus électoral?
Oui, comme je l'ai dit, c'est vrai, il faut reconnaître que les sénateurs de l'Ukuma sont de l'opposition, parce qu'ils appartiennent au parti des belligérants, aux sénateurs de la Cour de Sainte-Cité. C'était la source de légitimité pour eux. Mais pour l'instant, ils savent très bien qu'ils ne se trouvent pas dans la majorité, que le mécanisme actuel va procéder à d'autres manières de nomination au sein de la CENI. Ça, c'est une première vérité, donc il ne faut pas s'enfermer là-dessus.
Pourtant, c'est les politiques qui semblent s'accaparer, s'approprier la composition de la CENI. Vous savez que, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, l'opposition non institutionnels ainsi que la société civile ont dénoncé le fait d'être exclus par les politiques dans la composition de la CENI.
C'est cela, mais justement, les signataires du document, l'abbé Malma, ils le savent très bien. Le mécanisme de nomination a changé. Alors, il faut maintenant se positionner et au-delà. Donc, les vrais problèmes, ils ne l'ont pas posé. Parce qu'ils auraient dû nous donner des explications pour eux, quelle était la démarche que la CI devait amorcer pour rendre possible l'organisation des élections en 2010. Ils ne répondent pas à cette question ni à cette préoccupation.
Mais lorsque les gens passent 10 mois sans être payés, vous pensez que ces gens doivent rester passifs?
Non. Ça, c'est une.
Ils
saisissent de la question sociale pour pouvoir atterrir sur le terrain politique. Si la question sociale est celle-là, donc ils méritent leur salaire, ils doivent faire pression auprès du gouvernement, auprès du premier ministre, auprès du ministre des Finances, auprès du ministre du Budget pour qu'ils rentrent dans leurs droits. Ça, personne ne leur interdit. Mais maintenant, partir de la question sociale pour embrancher la question politique, c'est là qu'il y a des doutes que je suis en train de mettre, qu'il n'y a pas de la sincérité en voulant. C'est une manière d'attirer l'attention de l'opinion publique sur eux, mais je doute de la sincérité de leur démarche.
Oui, Mathieu, pour Kobi, au-delà de cette crise, comment entrevoyez-vous la suite du processus électoral?
Oui, d'abord, nous savons qu'après les élections, c'est l'ANP qui est au pouvoir, donc le processus, tout naturellement, sera embrigadé par l'ANP. Donc, je ne vois pas une autre force politique ou sociale s'imposer par rapport à l'ANP. Et bon, tout dépendra du bon vouloir de partir au pouvoir de l'ANP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir est exercé par le représentant du peuple qui, curieusement, se trouve majoritaire au sein de l'ANP. C'est tout à fait normal. C'est en vertu de ce mandat que l'ANP ou les représentants du peuple vont agir. C'est comme ça que moi je me pose la question, ce sont les acteurs politiques au pouvoir qui doivent décider de la volonté de voir le processus électoral poursuivre son bon nombre de chemins et qui, curieusement, se trouve être de l'ANP. Donc, en fait, la population va peut-être prendre conscience de ce qui va arriver bien après, mais au moins, l'homme politique étant au pouvoir, il décidera de son avenir politique.
Et vous, Matadi le fils, et comment vous entrevoyez l'avenir?
Moi, je suis plutôt optimiste. Je pense qu'en 2011, les Congolais pourront choisir d'autres dirigeants. Et je pense qu'il y aura une alternative parce que on est en train de se serrer les coudes déjà, que ce soit dans l'opposition ou ailleurs. Vraiment, je vois un avenir meilleur. Je sais que les bonnes choses s'annoncent. C'est ça.
Merci, les bonnes choses s'annoncent. Nous passons à notre dernier thème de ce soir. Selon la Fédération des entreprises du Congo, la FEC en sigle, l'année 2010 est placée sous le signe de l'amélioration du climat des affaires. La déclaration est du président de la Fédération des entreprises du Congo qui s'inspire de la volonté exprimée par le président Joseph Kabila. Pour Albert Yuma, si au cours de l'année 2009, la priorité en matière économique a été focalisée sur le climat des affaires, le gouvernement doit en 2010 traduire dans le fait le V du chef de l'État. Le numéro 1 de l'association patronale s'est ainsi exprimé samedi dernier à Kinshasa lors de l'échange des vœux de nouvel an avec les opérateurs économiques. Plus de détails avec Kéline Kouté.
Pour la Fédération des entreprises du Congo, la sécurité juridique et judiciaire est une des conditions pour le retour des investissements productifs en RDC. Beaucoup de choses, cependant, selon la FEC, doivent encore être faites. Mais elle reconnaît des avancées significatives qui ont été enregistrées, entre autres le vote paritaire Assemblée nationale et Sénat le 15 décembre 2009 de la loi portant autorisation de l'adhésion de la RDC à l'OADA. La FEC estime que l'adhésion de notre pays à l'OADA est une mesure essentielle pour rassurer le secteur privé sur une préoccupation capitale, la sécurité juridique. Autre avancée, la prise par le Premier ministre du décret portant création d'un comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements en RDC. Un objectif louable que la FEC accompagne et encourage. Toutefois, elle insiste sur la concrétisation de ces mesures pour que les opérateurs économiques installés au pays puissent reprendre aussi confiance et redémarrer rapidement leurs activités et créer ainsi la valeur ajoutée locale sociale et des emplois. En tant que porte-voix du secteur privé national, la SEC entend contribuer avec efficacité à l'accomplissement de cette mission afin d'une part de débarrasser la RDC de toutes les pesanteurs nuisibles car ne servant pas les intérêts de l'État mais plutôt des individus et d'autre part de créer les conditions de l'avènement d'un environnement des affaires attractif et encourageant pour les investissements, a ajouté le président de la SEC.
Matadi Lessis, je rappelle que vous êtes secrétaire de la rédaction au quotidien La Tempête des Tropiques, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Et je vais lire la ligne de certains journaux. Le potentiel dans son édition du 29 janvier, donc d'aujourd'hui, à la page 5, dit ceci, le Sénat adopte trois projets de loi liés à l'assainissement du climat des affaires. Et La Tempête des Tropiques, votre journal, à la une titre ceci, dit climat des affaires en République démocratique du Congo, trois projets de loi votés hier au Sénat. Et comment La Tempête des Tropiques, votre journal, a analysé l'adoption de cette série de lois au Parlement?
Nous avons salué cette initiative des députés au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'il était vraiment temps. Hein. Et puis, l'État congolais devrait comprendre qu'il y a des taxes qui pèsent sur les investisseurs et autres commerçants. Il est vrai que ses intérêts propres et cet argent, c'est un secret des policiers, n'entrait pas dans les trésors publics. Ça les ordre à des postes des particuliers. Hein, il fallait au contraire mettre tous les investisseurs dans des bonnes conditions pour qu'ils sentent en sécurité, notamment avec des lois qui viennent d'être adoptées au niveau de l'Assemblée nationale. Nous encourageons cela.
Et au Sénat aussi.
Et au Sénat, excusez-moi. Et ça aurait d'ailleurs été aussi à leur avantage. Parce qu'aujourd'hui, toutes les initiatives privées sont versées dans les paniers des 5 centimes de la République. Or, on dérange, ce qui est bizarre, on dérange les mêmes investisseurs privés qui sont venus travailler chez nous. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Submergés des taxes et autres tracasseries, ces investisseurs préfèrent mettre un terme à leurs affaires, ce qui est désavantagé par rapport à nous. Ils nous donnent quelque part de l'emploi, quoique c'est pas très bien rémunéré, mais quand même c'est de l'emploi. Au lieu de voir nos jeunes gens aller faire les coulons à partir par là, ils travaillent quand même quelque part. Or, ces mêmes investisseurs sont mis très mal à l'aise. Je pense qu'il faut améliorer ce climat des affaires, puisqu'il y a aussi des escrocs qui opèrent, hein, aux vies aussi de tout le monde. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée hier. Radio Capi, c'est une grande radio, je crois que vous avez mené des investigations aussi. Il y a quelqu'un qui s'est improvisé comme investisseur en matière de microcrédit. Il a installé ses bureaux au marché de la liberté à Massina. Il fallait que les gens souscrivent pour verser de l'argent. Et puis au moment opportun, par rapport à un temps de fidélité, on pourrait leur accorder des crédits. Des mamans se sont précipitées dans ces microcrédits-là. Hier, les femmes ont pleuré. Le gars a fouillé, il a fermé ses portes, il semble avec plus $1 million. Vous pouvez appeler tout à l'heure ou bien envoyer vos reporters sur le terrain, les gars a fouillé. Donc il faut vraiment de la sécurité, c'est-à-dire sécuriser aussi bien les investisseurs que nous, les consommateurs aussi. Ce qui est bizarre, hein, les femmes sont allées pleurer chez les autorités, mais on dit que c'est de votre faute. C'est vous-même qui êtes allé verser votre argent là-bas, vous n'avez qu'à vous en prendre vous-même. C'est déplorable.
Mathieu Poukoudi, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Amosir, un hebdomadaire qui paraît à Matadi au Bas-Congo. On sent que par rapport à l'amélioration du climat des affaires, le processus est en cours avec l'adoption de cette série de lois à l'Assemblée nationale, au Sénat, n'est-ce pas?
Tout à fait, parce qu'en fait, quand on parle de processus, donc, il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut franchir, notamment l'adoption des textes devant régir le monde des affaires. Il y a l'installation des structures devant permettre à assurer la sécurité judiciaire dans le domaine des affaires, notamment les tribunaux de commerce, parce que ici à Matadi, nous attendons, ou au Bas-Congo, nous attendons les tribunaux de commerce qui ne sont pas encore installés. Et en dehors de ça, il y a également cette volonté politique dans les chefs de l'État de pouvoir non seulement sécuriser les investisseurs, comme l'a dit Mathieu Dilétis, mais aussi le petit peuple, parce qu'en fait, ce sont des hommes nantis, des gens africains qui viennent, qui obtiennent des documents auprès de l'État, mais qui, par la suite finissent par disparaître avec l'argent des gangs du cul. Vous comprenez donc l'État devrait prendre des mesures, des dispositions nécessaires afin que ces derniers, en fait, qu'il n'y ait pas d'aventuriers dans ce secteur des affaires pour que réellement le développement auquel nous aspirons tous soit une réalité. Vous êtes sans ignorer que le développement ne vient pas avec l'État, le plutôt. Le plutôt ne vient pas nécessairement avec l'État, mais plutôt aussi avec le privé, et surtout. Donc, voilà un peu, c'est un processus. Il faut y aller mono, étape par étape, mais nous espérons, avec cette volonté politique, que nous y arriverons.
Oui, Médard Mbouyal Mangal, je rappelle que vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, certains sigles. C'est toujours bon d'élaborer des bons textes, d'adopter des lois, mais ce qui importe, c'est l'application de ces textes, de ces lois. Et à votre avis, quel mécanisme peut-on mettre en place pour appliquer ces différentes lois?
Le seul mécanisme qui vaille la peine, c'est le contrôle des institutions les unes contre les autres. C'est par exemple l'Assemblée nationale qui devra veiller après la publication d'un certain nombre de textes, de s'assurer si effectivement le gouvernement a rendu opérationnel les textes ou les lois qui ont été publiés. Et au niveau du gouvernement aussi, s'assurer si les cadres, tel ministère qui a la charge d'exécution de tel texte, les fait effectivement. Parce que souvenez-vous des guichets uniques. Ça veut dire plusieurs fois, par exemple, on a vu des ministres, une délégation interministérielle descendre à Matadi, descendre au niveau des ports et aéroports pour vouloir convaincre les gens à accepter le guichet unique. C'est-à-dire, il faut le contrôle et des sanctions. Il faut qu'il y ait des sanctions à part positives et négatives pour déclencher ce mécanisme. Parce que si vous laissez les fonctionnaires congolais dans ces mécanismes, dans les paiements, et vous allez lui demander d'exécuter ce texte-là, il va se poser un problème. Donc il faut restaurer l'homme congolais, il faut le mettre au centre du développement, comme bénéficiaire de ces services. Ainsi, on arrivera effectivement à rendre opérationnel ce texte et nous assurer qu'effectivement, le climat des affaires s'est amélioré. Sinon, on va toujours assister à des mécanismes assez fins de blocage pour les non-initiés.
Merci, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Jean-Claude Nsiala était à la technique, Kelly Cook à la réalisation, assisté de Maombi Mukomia, sous la supervision de Ben Kabamba et devant ce micro, Guy Maté. Merci et excellent week-end sur Radio Okapi.
Okapi.